manquent pas. Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Comme d'habitude, un petit tour ludique et assez geek sur les actualités de la semaine ou les actualités à venir, puisque on a l'habitude d'ouvrir avec l'agenda. Pourquoi ne pas continuer de la sorte? Alors, c'est vrai que l'agenda des événements qui se produisent dans la région est un peu vide.
C'est un agenda virtuel.
Voilà. Et là, on s'est attardé notamment sur Ulule, puisque Ulule a énormément de projets qui se créent. Alors, je pense pas prendre de risques en disant par jour, hein. Et il y en a quelques-uns qui ont noté notre attention et qui se finissent très prochainement. Donc, c'est l'occasion d'en parler. On peut commencer avec un peu de jeu de rôle, puisque c'est vrai que le rétro gaming se fait majoritairement dans le jeu vidéo, mais il se fait également dans le jeu de rôle, ce qui est assez étonnant.
Oui, parce que les plateformes comme Ulule, c'est un bon moyen pour des créateurs de jeux de rôle de diffuser leurs projets, leurs idées, et pour les faire connaître. C'est nickel parce que ça permet, on en a déjà parlé, de faire connaître ton produit, puis de voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Et là, on retourne, on fait du rétro gaming, du rétro JDR gaming, je sais pas, du rétro roleplay gaming, enfin c'est compliqué. Parce que le jeu de rôle le plus mythique de tous, on en a même fait un dossier l'année dernière, si vous vous souvenez, c'est Donjons et Dragons. Et on en est à la version 5, en vrai. Mais il y a des gens qui sont toujours nostalgiques de l'ancienne, des anciennes versions. Je crois que j'en fais partie quand même. Et il y en a qui se sont dit, tiens, si on ressortait le jeu de rôle, pas l'original, mais une version un petit peu vintage, un petit peu old school.
Dans cette version, on retrouve quoi comme classe? C'est vrai que si on regarde les dernières éditions, on peut carrément faire des combinaisons de classes. On peut être magicien barbare. Je pense que tout ça n'était pas possible dans la première édition, basée sur l'édition de Moldway, c'est ça, de Donjons et Dragons.
C'était vraiment très fermé, très simple et tout, mais vraiment, on est dans le début des années 80, là.
Bah, là, pour les connaisseurs, il faut se dire que le projet Ulule dont on parle regroupe en fait les deux boîtes qui étaient les boîtes rouges et les boîtes bleues de l'époque. Donc ça vous permet, pour les connaisseurs, de se remettre une idée sur quelle classe pouvait être jouée, quel type de jeu, si on pouvait mourir dès le premier piège. Là, je pense au mage, qui avait très peu de points de vie au niveau 1.
Il y a des guerriers qui avaient lancé un point de vie pour leur premier niveau et un point de vie pour leur deuxième.
Ils ont survécu.
C'est un peu des old school essential. Le financement participatif est en cours et se termine très prochainement, hein. C'est en courant juin.
Alors, il se termine juin. Le 28 juin à 23h59 exactement. Alors, dans les paliers, pour 18 euros, on a la version PDF. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 livres. 5 livres, j'imagine qu'il y a le manuel du joueur, le manuel du monstre, le manuel du meneur, etc. Donc, il y a les 5 livres pour 18 euros en PDF. À partir de 53 euros, on a un magnifique coffret, un vrai coffret avec les 5 livres imprimés, bien colorés et tout, avec une mise en page qui a l'air très sympa en plus. Le palier le plus élevé, c'est toujours les plus amusants à voir. Et le palier le plus élevé, c'est 600 euros, mais en fait, je pense que c'est dédié aux boutiques, puisque ça permet d'avoir 10 exemplaires du livre de base, par exemple, et 10 exemplaires du coffret. Donc, c'est plus pour les professionnels. Et donc, voilà, donc c'est sur Ulule, ça s'appelle Old School Essentials.
Voilà, il y a 9 classes pour les humains, acrobates, assassins, barbares, druides, illusionnistes. En fait, il va y avoir même des Advanced Rules, qui étaient sortis d'ailleurs en 1970.
Ils ont pris le meilleur de tout ce qui était sorti, etc. pour faire. Ils se sont fait plaisir.
Ça vous tenterait de refaire une édition comme ça de rétro D&D?
Je ne paierai pas pour acheter une boîte comme ça. Vraiment, à part, c'est vrai que c'est un bel objet quand même, c'est assez sympa. Mais refaire une partie à l'ancienne, oui, pourquoi pas.
C'est vrai que n'ayant pas le jeu ADD chez moi, à part un ou deux jeux de plateau de ADD d'époque, pourquoi pas. Pourquoi pas avoir le matériel pour pouvoir mener des parties. Après, comme dit Dom, peut-être pas à l'acheter, mais y rejouer.
puis j'ai pas la place.
Après, tu vois, c'est le, on parle de 50-60 euros pour les 5 livres, mais en plus, tout ce qui sera débloqué par les paliers. Là, ils sont atteints déjà 10 000 euros d'investissement sur les 9 000 qu'ils demandaient. Dès qu'ils arrivent à 12 000 ou 13 000 euros, enfin 13 000 euros, t'as 2 livres supplémentaires qui te donnent des classes et des races supplémentaires. Donc, peut-être que l'investissement en vaudra la peine.
Et dans 2 ans, on aura le Advanced Donjons Dragons Old School Essential.
Vintage rétro gaming.
Allez, on va enchaîner et cette fois-ci avec un autre projet participatif sur Ulule. Et c'est un projet qui nous tient à cœur puisque c'est un magazine qui parle d'informatique, mais pas seulement.
On aura, alors, à chaque fois, je leur fais de la publicité, à chaque fois qu'il y a un exemplaire du pass. Donc, c'est le virus informatique. Le dernier numéro que j'avais présenté, c'était le numéro 43. Le numéro 44 est censé sortir bientôt, mais le souci, c'est que le virus informatique est distribué par Prestalis dans les kiosques, et Prestalis a fait faillite récemment, au mois d'avril. Donc, ce qui a mis beaucoup de monde, beaucoup de magazines dans la merde, il n'y a pas d'autre mot. Et ils sont bien embêtés. Du coup, la rédaction du virus informatique a lancé un Ulule, un projet participatif pour les soutenir et pour que le prochain numéro sorte. Donc, c'est sur Ulule, c'est le imprimons le 44e virus informatique. Le projet se termine le 12 juin à 11h59. Et en gros, les paliers, c'est pour 2 euros, vous aurez la version numérique, bien sûr, en PDF du prochain exemplaire, en libre de droit en plus, mais c'est pas une raison pour le partager, hein. faut en acheter plusieurs exemplaires s'il faut. Et donc là, le premier palier est atteint, les 10 000 euros pour que le numéro soit fabriqué, mais le but c'est aussi d'atteindre le prochain palier qui est à 20 000 euros, parce qu'à partir de 20 000 euros, ils vont pouvoir faire imprimer les numéros sur papier et le faire distribuer chez tous les marchands de journaux. Et ça, c'est beaucoup plus important puisque ça va leur permettre de survivre à plus long terme. Il y a en plus un palier à 25 euros, celui que j'ai pris, moi, ce qui va permettre en plus aux contributeurs de participer à la communauté virus informatique et de suivre les discussions. Et si vous êtes vraiment très généreux, il y a même un palier à 1 million d'euros.
1 million.
S'il vous plaît.
Ouais.
Là, tu t'achètes carrément le journal. T'as les clés de la maison, comme ils disent.
Ça donne envie.
Ouais, la petite touche d'humour habituelle.
Ouais, toujours. Il y a un palier à 100 euros qui est sympa parce qu'ils ont encore des films transparents, des films d'impression. Alors, ça se fait plus maintenant avec les impressions numériques, j'imagine, qu'il n'y a plus les films transparents. Mais ils ont encore, depuis les années 90, ils ont gardé quelques films transparents des anciens numéros, des pages. Donc, ça va être super collector, ça peut faire un super poster. Et c'est si on contribue à 100 euros. Donc, allez soutenir le virus informatique.
En tout cas, c'est un peu bizarre que le virus informatique ne peut pas tenir à cause peut-être du virus actuel qui court dans la rue.
C'est paradoxal.
C'est vrai que si vous ne connaissiez pas le virus informatique, vous avez la possibilité d'avoir du numéro 27 au 44 de quoi vous mettre à jour.
J'ai hésité, mais comme je les ai déjà tous. Et en ce moment, on trouve encore quelques exemplaires du numéro 43 chez les marchands de journaux.
Et on se souvient bien sûr de cette fameuse couverture du numéro 40. Désolé, l'informatique, c'est de la merde.
Toujours de la merde.
Allez, je vous propose d'enchaîner avec un peu de musique.
Ouais.
Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock, Dominique, vu que c'est toi qui as ramené la boîte à CD?
Alors, j'ai pris que des musiques en rapport avec un dossier qu'on va évoquer un petit peu plus tard dans l'émission, qui concerne des groupes de musique qui ont joué dans des jeux vidéo. Donc, il y a plein d'exemples. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Korn, un petit Offspring, il y a de tout.
Donc, on va s'écouter un peu de Korn avec Freak Unleash, et puisqu'on aime bien jouer, et ben ça sera la version live qui est apparue dans quel jeu?
Adventure Quest 3D. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's been taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away? I'm
Voilà, c'était Korn avec Freak Unleashed, une version qui est issue d'un jeu vidéo, puisque Korn a fait une prestation comme ça, live. Alors, il y a plusieurs types de prestations. Ici, c'était, ils avaient été modélisés en 3D dans le jeu.
Ils avaient utilisé le moteur du jeu, en fait, pour représenter leur concert. Et attention, il y a des joueurs qui venaient assister au jeu, tout en continuant à taper sur des monstres, en plus. C'est ça qui est amusant. C'est-à-dire que tu assistes au concert, et pendant cela, tu peux continuer à jouer.
Je vous propose d'enchaîner, vu qu'on parle de jeux vidéo avec Korn. On aime bien un peu dégoter les jeux qui sont gratuits, puisqu'il y a plein de plateformes qui, pendant une certaine période, vous proposent de télécharger gratuitement certains jeux. Et Dom, je pense que tu as crié au scandale avant l'émission, puisque il y a un jeu qui t'a déjà été offert et on te propose de l'acquérir une nouvelle fois gratuitement.
Oh oui, ça va, ça, tu parles d'un scandale. Oui, parce que ça, bah, chaque semaine maintenant, on va parler d'Epic Games pratiquement, hein, parce qu'en ce moment, ils proposent des gros jeux, on l'avait dit, ils avaient offert GTA V, ils ont offert la semaine dernière Borderlands 2, et le jeu de cette semaine, c'est Overcooked, un petit jeu de cuisine multijoueur très très amusant, hein, c'est vraiment un jeu d'apéro, il n'y a pas... Hein. Mais je l'avais déjà eu gratuit chez Epic Games il y a quelques mois, donc je peux même pas demander à ce qu'ils me remboursent parce que le jeu est offert, c'est nul.
Moi, j'ai testé pour ma part Overcooked 2, et c'est vrai qu'il est fort sympathique et surtout en multiplayer, puisque
oui,
vous allez devoir communiquer.
Je vois pas beaucoup l'intérêt, en fait, effectivement.
Alors moi j'ai testé à 2 joueurs et je me doute qu'à 4 ça doit être un chaos ultime. Alors au début c'est juste vraiment une question d'organisation. Est-ce qu'on va pouvoir se coordonner avec son partenaire pour pouvoir faire cuire un steak pendant que l'autre va chercher du pain et nettoyer les assiettes pour enfin les livrer? Sachant qu'il y a plusieurs commandes en même temps. Ça, c'est un peu le mode facile. Ensuite, la difficulté du jeu vient sur les niveaux en eux-mêmes, puisque vous êtes des fois sur un bateau, sur des plateformes aériennes qui bougent, et donc vous allez des fois passer plus de temps à tomber ou à essayer de trouver le bon chemin plutôt que de servir des plats.
Moi, j'avais testé, j'avais joué sur console, pas la version. Alors, c'est plus amusant quand vous êtes tous sur le même canapé ou dans la même pièce, parce que là, tu peux vraiment t'engueuler pour de bon plutôt que via le web. Mais en plus, j'avais testé avec des gens qui jouaient jamais aux jeux vidéo. Et ça, c'est beaucoup plus amusant.
Oui, ça met un petit challenge en plus. Tant que tu restes dans les premiers niveaux, ça peut aller, je pense.
Oui, le but, c'est même pas de réussir ou quoi que ce soit, c'est vraiment de t'amuser, de te défouler, quoi.
Ouais.
En plus, la date de sa sortie, vu que c'est le premier du nom, date de 2016, et en cette année-là, il a eu, pour à l'époque, au 13e British Academy Games Awards, il a été nominé et lauréat du meilleur jeu britannique et meilleur jeu pour la famille. C'est un jeu que Nintendo aurait dû sortir, en fait.
Alors,
je crois qu'il y a des jeux chez Nintendo Switch. Il y a des jeux du même genre, hein, des jeux de cuisine comme ça, enfin, ou de coopératif où il faut aller très vite et faire plein d'actions, ouais. Il y en a plein, il n'y a pas de problème.
Ouais. Après, là, le côté un peu cartoon des graphismes et puis le fait que chaque niveau change complètement la méthode de coordination que tu dois avoir et de coopération avec les autres joueurs. Des fois, t'as juste, tu dois demander à un joueur d'aller se mettre sur une plateforme à gauche pour ouvrir une porte qui est en haut à droite, parce que sinon, toi, tu peux pas passer, alors que lui, il est peut-être en train de couper des légumes pour un autre joueur. Enfin, c'est vraiment intéressant.
Ce qui est amusant, c'est que ce genre de jeu a eu tellement de succès qu'il y a même des jeux il y a eu 2-3 jeux de plateau qui sont sortis dans le même genre, basés sur la cuisine où il faut aller très vite et faire des choses en même temps.
Ouais, avec des sabliers pour remplacer le côté stressant du temps, ouais.
Alors à la base, on voulait parler d'Epic Game Store, surtout parce qu'il y avait une news comme quoi Total War Saga serait offert pendant 24 heures.
Total War Saga 3.
Troy.
Un jeu qui sortirait 2020.
Il est prévu pour le mois d'août, si j'ai pas de bêtises, j'ai plus la date exacte, mais
le 13 août, effectivement.
Alors, il va sortir effectivement alors non seulement il va sortir en exclusivité d'abord sur l'Epic Game Store, mais surtout
pour une première fois.
Pendant 24 heures, il sera entièrement gratuit. Ça veut dire que si tu te connectes sur l'Epic Game Store dans les 24 heures, le 13 août, tu auras le jeu gratuit définitivement, pas juste pendant un jour. Et ça, c'est vraiment un gros coup parce que les jeux. Enfin, Reynald les connaît mieux que moi, mais les Total War, ça fait peut-être pas 20 ans que ça existe, mais pas loin.
Oh, si, quand même. C'est les premiers Total War 2000 avec Shogun Total War.
Oui, d'ailleurs,
ouais.
C'est justement à l'occasion du 20e anniversaire qu'ils font une opération spéciale comme ça. Mais c'est très fort. Et c'est Epic qui est allé voir, qui a payé, qui est allé voir les gens de Total War en disant « Hop, votre jeu, on vous le prend, on va le vendre, il n'y a pas de problème, mais pendant 24 heures, on le fait gratos. » Sega a dit ok.
C'est fou quand même de rendre gratuit un jeu limite avant sa sortie.
Oui, parce que c'est un jeu, ce qu'on appelle un triple A, donc c'est vraiment un gros gros jeu, c'est pas ce petit jeu développé comme ça dans un coin. Oui,
et puis là c'est une des premières fois où t'auras des jeux qui seront gratuits day one, comme on dit, et qui n'est pas un jeu gratuit qui propose des plateformes comme GOG, Epic Games et compagnie, qui sont des jeux qui datent de 10 ans, 15 ans en arrière.
Alors, comment est-ce qu'on rentabilise, lorsqu'on s'appelle Epic Games Store, d'avoir payé autant le jeu et les avoir donnés gratuitement? Est-ce que du coup, on force pas les utilisateurs,
en fait,
les joueurs?
Tu fidélises, hein. C'est ouais. Comme les fournisseurs d'accès ou les gens qui font des forfaits mobiles, ils te filent Spotify gratuit ou des trucs comme ça, ça leur fait perdre de l'argent, ça leur coûte de l'argent, mais ils te fidélisent, en fait c'est ça, ils cherchent juste à te fidéliser, c'est comme un magasin d'un coin, un supermarché qui va offrir des cadeaux, organiser des concours, ça coûte de l'argent, mais comment tu t'y retrouves? Bah c'est simple, ça, les gens la prochaine fois qui vont venir faire des courses ou acheter un jeu, etc., eh ben à qui ils vont peut-être penser à premier aller chez Epic plutôt qu'aller chez Steam.
Mais là, t'auras pas le choix, puisque t'auras acheté le jeu sur l'Epic Games Store, donc peut-être qu'il ne sera valable uniquement qu'en passant par la plateforme.
Bah, une fois, si t'as raté les 24 heures de gratuité, tu pourras l'acheter soit chez Steam, parce qu'il va, peut-être qu'il sera moins cher chez Steam plus tard que chez Epic, mais pendant 24 heures, en tout cas, il sera gratuit. Mais ils ont fait des calculs, ils ont bien calculé leurs coûts, ils ont étudié les statistiques, et ils s'aperçoivent qu'effectivement, ça marche, enfin, ce genre de jeu gratuit, ça fidélise les gens, et ça les fait venir plus facilement plus tard quand ils veulent acheter des jeux. Il y a quelques petits soucis question qu'ils posent encore, parce que, l'une des particularités de tous les jeux de la saga des Total War, c'est que ils sont ce qu'on appelle modables. La communauté des joueurs aime bien modifier les jeux, ajouter des unités, les customiser, etc. Est-ce que ça sera toujours possible via l'installation Steam Epic, ce qui n'est pas toujours possible avec certains jeux? On verra.
Il faudra attendre peut-être la fin des droits d'Epic Games sur ce jeu pour qu'il soit après disponible sur Steam pour justement voir développer ça. Et il y a Epic Games avait déclaré que le fait de prendre une sorte de dette envers Sega pour après se rentabiliser sur les futurs achats de ce jeu-là, était qu'il s'ouvrait sur un panel de nouveaux joueurs qui n'avaient pas l'habitude.
Exactement.
Les joueurs de Total War ne vont pas sur Epic Games, il n'y a pas les jeux adéquats. Alors que là, ils vont faire arriver massivement et très massivement des joueurs des Total War. Qui en a une flopée en plus des Total War, donc ça ouais. Regroupe énormément de monde. On passe du Shogun, de Run Total War, Free Kingdom récemment. Là, on parle de 3, il y a eu tous les Total War Warhammer. Enfin, ça brasse des communautés entières de oui, joueurs qui ne viennent pas sur Epic Games. Donc là, ils peuvent se rentabiliser.
Il y a beaucoup de joueurs qui ils connaissent les Total War peut-être de réputation, mais ils n'ont jamais osé s'y lancer ou jamais osé acheter un jeu Total War, etc. Là, ils vont avoir un jeu gratuit, bon, je vais le tester, je vais l'installer, etc. Et si le système leur plaît, etc., du coup, je vais peut-être aller racheter les anciens, puisque on peut régulièrement trouver les anciens Total War en promo. Ça va peut-être faire des achats. Même si ce jeu-là, ils l'ont gratuit, ils vont pas dépenser d'argent dessus, ça va peut-être les faire dépenser de l'argent sur d'autres jeux de la collection Total War.
Oh, Rénal, toi, tu as déjà testé plusieurs fois des Total War, si je me trompe?
Pratiquement tous, ouais. Je dis bien pratiquement parce qu'il y en a que j'ai pas encore testé, parce que comme je te dis, il y en a une flopée, il y en a pratiquement une vingtaine.
Est-ce qu'il y a un intérêt à revenir sur des versions précédentes de Total War, ou c'est comme la majorité des autres jeux de stratégie, une fois que t'as la meilleure version, généralement tu vas rester dessus?
Il y a les univers différents, comme je disais, il y en a qui sont des puristes, par exemple de Games Workshop, qui vont jouer qu'à Total War Warhammer et Total War Warhammer 2. Il y en a qui vont jouer qu'à Total War Napoléon. Tu vois, pour l'instant, mon préféré, entre guillemets, celui que j'aime bien rejouer, c'est Rome Total War, le premier, qui est le troisième du nom, en fait, compte un peu. Ouais. Donc, pour te dire qui date.
Un truc tout bête, c'est que les tout derniers, c'est effectivement des graphiquement, c'est des jeux qui nécessitent une certaine puissance, une machine relativement récente. Mais je suis sûr que les anciens se tournent sur des machines qui sont un peu plus anciennes. Donc t'as pas besoin d'acheter le tout dernier ordinateur pour y jouer.
Tout à fait. Le seul souci de reprendre sur les anciens Total War, c'est le fait qu'ils soient compatibles avec Windows 10.
Ouais.
Et parce que pour avoir remis mon ancien Rome Total War et me disant allez tiens j'ai 2-3 nuits blanches d'avance là je peux me lancer, ouais, il m'a dit non tu vas racheter le nouveau qui doit traîner sur Steam pour voilà, donc je pense que je
passerai par la case crack. Voilà. Des patchs. Moi je ne dis pas crack.
Ah non, mais là, je le dis ouvertement, moi j'en ai marre. Normalement, quand tu achètes un logiciel, c'est pour l'utilisation. Quoi.
Compatibilité avec Windows XP dans tes paramètres.
Ah, j'ai tout utilisé. J'ai ouvert tous les ports, on va dire, hein, de mon PC. Pour,
mais Dominique, on sait tous que cette case te laisse espérer que le jeu va tourner, mais elle n'a jamais fonctionné. Pour...
Si, ça marche. J'ai vu des exemples, ça marchait. Bon, enfin bon. Puisqu'on parlait de Sega, on va rester sur Sega. Alors Sega, ils inventent un nouveau système. Alors, ils inventent le Fog Gaming. On connaissait tous le cloud gaming. Maintenant, c'est le Fog Gaming. C'est magnifique.
Alors, le principe reste le même. Donc, vous êtes chez vous. Vous n'avez pas forcément les ressources pour jouer à un jeu vidéo. Donc, vous participez et vous payez un abonnement pour pouvoir faire du gaming à distance. Hein, c'est à peu près ça. Sauf que en fait, le cloud gaming utilise généralement des serveurs, hein, dans des belles salles serveurs climatisées qui tournent à fond de blinde pour pouvoir permettre aux gens de tester des jeux qui généralement consomment de grosses ressources. Ici, là, on parle pas de jouer à des Total War, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais plus à des jeux d'arcade. Et quoi de mieux pour jouer à de l'arcade que de faire travailler des bornes d'arcade carrément.
En plus, c'est bien avec le confinement, t'as pas, parce que là, les salles d'arcade sont fermées, quoi. Donc, t'as même pas besoin de te déplacer. Tu peux jouer à une borne d'arcade chez toi, sur un écran d'ordinateur ou peut-être même un écran de télé, quoi. C'est pas mal.
Ça se passe surtout au Japon, parce que eux, ils ont limite une maison, une salle d'arcade, une maison, une salle d'arcade, un coin de rue, une nouvelle rue avec une maison, une salle d'arcade, etc.
Et ils ont la fibre partout, surtout.
Voilà. Et le fait, c'est que Sega insistait sur le fait que les salles d'arcade, quand elles étaient fermées, leurs machines ne fonctionnaient pas. Donc autant rentabiliser en laissant allumer toutes leurs machines 24/24 et profiter de la puissance des CPU et GPU des cartes qui se trouvent dans ces bornes pour alimenter, en fait, comme si c'était des serveurs à disposition. Et il y en a tellement au Japon de bornes d'arcade qu'ils peuvent se faire plaisir.
Pour les utiliser pour miner des bitcoins, non ?
Je pense que c'est déjà le cas, mais en sous-main, ça.
Mais là non, ça va pas miner du Bitcoin, ça va miner du Fog Gaming.
Après, le nom du Fog Gaming, c'est Fog étant brouillard en anglais. Tu peux te dire que le brouillard étant au niveau du sol, les bornes d'arcade aussi. Alors que cloud, qui
alors
est
le cloud,
nuages,
c'est dans les nuages, c'est
les nuages dans des serveurs dématérialisés. Fin...
Et quel jeu est-ce qu'on aura d'ailleurs ? Est-ce qu'on n'aura pas des petits jeux vidéo tels que Samurai Shodown, par exemple, puisque actuellement il y a la collection gratuite de la collection des Samurai Shodown sur l'Epic Game Store encore.
Donc Samurai Shodown, alors je sais pas quel âge il a, c'est tout, enfin le premier, je sais pas quand il est sorti, ça va presque avoir une vingtaine d'années aussi. Là par contre, oui, on est sur Neo Geo, là on n'est plus sur Sega.
Et on est sur du jeu de combat en 2D bien puissant.
Du bon vieux jeu, quoique les derniers sont peut-être en 3D, il y a peut-être eu des versions en 3D, je sais pas. En tout cas, Epic fait encore très très fort parce que la collection, alors attends, le nom exact, c'est Samurai Shodown Neo Geo Collection, sortira normalement sur toutes les consoles et aussi sur PC. Et Epic, donc Epic Game Store, va faire très fort parce que le 11 juin, ils vont l'avoir en avant-première. Puisqu'il sortira sur Steam qu'une semaine plus tard, et sur PlayStation et Switch, ça sera au mois de juillet, donc plus d'un mois plus tard. Et pendant une semaine, sur l'Epic Game Store, ça sera gratuit. Ça, c'est encore très très fort.
J'ai regardé, la série est commencée en 1993 et le dernier jeu en date est de 2019.
Donc là, le jeu, normalement, plus tard, vous pourrez l'acheter sur Steam et sur console à 40€, mais pendant une semaine, il sera gratuit sur l'Epic Game Store.
Assez sympa, surtout si on est amateur de petits jeux de baston comme ça à l'ancienne.
Ouais, nostalgique du SNK Studio, ça concerne quand même 7 jeux en tout.
Je vous propose d'écouter un peu de musique une nouvelle fois. Alors, on était sur un thème, c'est un peu un back-to-back, mais déjà préparé, avec les lives dans les jeux vidéo. On a parlé tout à l'heure de Korn, qui était dans Adventure Quest 3D, un jeu que personne connaît, c'est magnifique. Par contre, il y a des jeux un peu plus connus.
Un petit World of Tanks par exemple, c'est pas mal, c'est un petit jeu connu ça.
Je voulais parler d'un jeu connu, pas très bien, mais on le gardera pour tout à l'heure. On va parler d'un jeu dans lequel je pense qu'on a tous testé World of Tanks. Ce fameux jeu où vous allez contrôler un tank et vous battre comme ça sur des champs de bataille. Est-ce qu'il n'y avait pas une version arcade d'ailleurs de ce jeu ou un autre jeu qui ressemblait fortement?
Ah oui, des jeux de temps, il y en a toujours eu, oui. Mais il y avait une version mobile qui avait bien marché aussi.
Oui, elle est toujours. Elle me relance de temps en temps, mais bon, je préfère jouer sur PC.
Et là, je tiens à dire, après avoir vu quelques images de ce concert live dans World of Tanks, c'est assez bien fait, puisque si vous regardez ça sur YouTube avec une qualité un peu, allez, je vais dire du 720p, vous avez quasiment l'impression que ce sont les vraies personnes qui jouent.
Ah oui, oui, parce que les membres du groupe se sont fait numériser vraiment, et leurs personnages ont été placés. Enfin, c'est vrai que quand tu vois le concert, t'as l'impression que c'est c'est un vrai concert, mais non. Tu lances ton jeu et sur le menu d'arrivée du jeu, pratiquement pendant quelques jours, pendant la durée où il y avait les concerts, et ben à la place des sélections de tanks, etc., tu avais le concert de Offspring directement. C'est très très fort.
C'est ça, et j'ai vu qu'il y avait un problème lorsque j'ai vu deux tanks au milieu de la terrasse sur lequel les gens regardaient le concert. Mais c'est le groupe Offspring. Alors je pense que le live devait durer une petite quinzaine de minutes, voire un peu moins. Et ils ont joué plusieurs de leurs chansons. Je vous propose d'écouter. Allez, You're Gonna Go Far, Kid. Et ça sera la version, effectivement, qui a été jouée dans World of Tanks. C'était Offspring avec You're Gonna Go Far, Kid. On enchaîne, on parlait de jeux vidéo, je pense qu'on a encore quelques petites news.
Et puisqu'on parle de jeux gratuits, eh ben on va parler d'un jeu qu'on aurait pu avoir gratuitement si on en avait parlé à temps. C'est Arx Fatalis, le premier jeu de la société Arkane Studio, qui est une société française, qui est toujours basée à Lyon d'ailleurs, même s'ils doivent avoir des studios un petit peu partout, et même chez ils ont été rachetés par ZeniMax et Bethesda. Donc bon, ok, quand on dit Bethesda en matière de jeu, ça fait un peu peur par moment, mais ça va, ils ont réussi à sortir des bons jeux. C'est eux notamment qui ont fait un peu plus récemment Dishonored, par exemple Dishonored 1 et 2, le jeu Prey aussi. Ils ont fait les deux dernières versions de Wolfenstein, et ils ont annoncé leur prochain jeu pour cet été, Deathloop. Mais leur tout premier jeu, c'est un jeu qui est sorti en 2002 sur PC et sur Xbox, qui s'appelait Arx Fatalis. C'était un jeu de rôle en 3D, un petit peu à la Morrowind et compagnie. J'avais bien aimé ce jeu-là parce que il avait un petit twist intéressant, c'est que au lieu, comme dans la plupart des jeux habituellement en 3D, tu appuies sur des touches pour faire tes attaques, etc. Là, tu explorais le monde, c'était assez libre. Et un petit peu comme à la mode des jeux de survie maintenant, tu pouvais créer tes sorts, créer tes recettes, etc. Tu pouvais faire de la cuisine. Si tu ramassais de la farine et de l'eau et que tu la mettais dans un pot, tu pouvais faire du pain avec, etc. Et tu faisais les gestes. Et c'était un des premiers jeux à faire ça. Et c'était génial. même pour les sorts, il fallait faire le geste pour lancer des sorts. Enfin, c'est un jeu qui était vraiment innovant pour l'époque, et vraiment un des premiers jeux de rôle qui m'a marqué.
Un jeu qu'on pourrait limite adapter en VR à l'heure actuelle avec peut-être des graphismes.
Ne leur donne pas des idées, hein, mais on ne sait jamais.
Bah, non, remarque, mais il est vraiment fait pour. Hein.
Oui, mais ce sont des principes qu'ils ont repris dans leur jeu bien plus tard, hein, même dans les Dark Messiah of Might Magic, leur deuxième jeu, c'était déjà ça, en version un peu plus avancée. Mais même dans les Dishonored et dans Prey, tu retrouves des éléments comme ça de gameplay très très innovants. Ça a toujours été une marque de fabrique, ils sont vachement respectés pour ça, Arkane Studio. Et donc leur prochain jeu, c'est Deathloop, qui va sortir cette année. Apparemment, on est sur une île. Et ça va être une lutte, attention, je lis le pitch, une lutte éternelle entre deux assassins hors du commun. Partez à la découverte d'environnements époustouflants et de niveaux conçus avec minutie pour en faire une expérience de jeu immersive où vous serez libre de gérer chaque situation comme bon vous semble. Bon, ok, ça fait un petit peu bateau, mais c'est le moto, quoi.
À voir. Dès qu'on a des infos, on en reparlera dans Heureusement en France.
Et c'est français.
C'est vrai, pour une fois. Je vous propose de parler cette fois-ci d'un jeu qui nous a marqué il y a plusieurs années. C'est un jeu de course automobile un peu spécial dans son genre, c'est Trackmania, qui est sorti déjà il y a plusieurs années maintenant, et il va y avoir une nouvelle version qui va sortir très prochainement, puisqu'elle est prévue pour 2020 si je ne me trompe, et on aura l'occasion de revenir sur cette licence qui nous permettait d'avoir des conduites de voitures très arcade avec la possibilité, et ça c'était unique. Unique.
Oui, unique, je sais pas.
Non, puisque je me souviens de vieux jeux PC qui permettaient de faire cela, mais vous pouviez créer vos propres niveaux complètement.
Il y avait des jeux, sur ces PC, il y avait des jeux déjà où tu pouvais créer tes niveaux. Un Stunt Car Racer, par exemple. Enfin bon, on va pas remonter aussi loin. Mais effectivement, le jeu qui a été produit par Nadeo, et vous savez quoi, Nadeo, c'est aussi une boîte française, hein. On rigole pas, hein. Cocorico aujourd'hui. Et effectivement, tu pouvais créer tes propres circuits, tes propres courses, mais il y avait l'éditeur de jeu, pour une fois, l'éditeur de cartes de circuits, était super intuitif et vraiment très simple, et tu pouvais très facilement fabriquer un circuit, et même avec des petits obstacles, un petit peu comme avec les boîtes de jouets qu'on avait quand on était petit, quoi. Tu faisais tes circuits de voitures et avec des loopings, etc., et des tournants, et tu lançais tes voitures dessus, et là c'est pareil. Tu finis, t'avais à peine fini ton jeu dans l'éditeur de jeu, tu pouvais tout de suite le tester avec ta voiture et tester le jeu et le modifier éventuellement. C'était absolument très intuitif.
Et vous aviez la possibilité, lorsque vous jouiez notamment solo, de très vite revenir sur le départ, hein, les temps de chargement étaient vraiment excellents à ce niveau-là. Et ensuite, vous aviez le mode multiplayer qui laissait une sorte de ghost sur l'autre voiture, donc il n'y avait jamais vraiment de conflit entre les voitures où vous alliez vous impacter l'un l'autre, ce qui permettait vraiment de faire une course à la rapidité vraiment passionnante.
C'était vraiment ça, toutes les versions du jeu, il y a toujours eu des records. Quand tu lançais le jeu, tu lançais une piste du jeu, il t'affichait le record, tu avais le record, enfin la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze, et tu avais aussi le record des développeurs, qui étaient très très difficiles à battre. Et tu pouvais faire tous les circuits, essayer de battre tous les records et avoir débloqué toutes les médailles. Et, c'était pas mal. Et il y a eu plein de versions différentes, même si le principe du jeu était toujours le même. Et il y a toujours des gens qui tournent, il y a toujours des serveurs, il y a des serveurs entiers de gens qui font des compétitions régulièrement. Il y a des chaînes YouTube qui sont consacrées à ce jeu, à toutes ces versions. Il y a des compétitions en ligne. C'est vraiment impressionnant.
Alors, qu'est-ce que va rapporter cette nouvelle édition de 2020? C'est la grande question.
Faut dire aussi que les jeux Trackmania, c'était des jeux normaux, tu l'achetais, tu pouvais y jouer, et te mettre en multijoueur. Là, ce Trackmania-là sera un free-to-play. C'est annoncé en tant que free-to-play, et tu pourrais y jouer gratuitement, mais tu n'auras que les courses de base, enfin les 25 courses de base, ton mode solo et ton mode multijoueur. Après, à toi de voir si tu voudras payer un abonnement, qui sera par mois ou à l'année.
C'est pas un abonnement. Je te coupe tout de suite, ça n'est pas un abonnement. Ubisoft te l'a dit, non monsieur, c'est pas un abonnement.
Ouais, enfin, tu payes tous les mois, donc c'est un abonnement.
C'est pas un abonnement. Tu achètes un jeu pour une durée déterminée. Quand cette durée est finie, tu peux racheter le jeu. Mais c'est pas un abonnement, c'est Ubisoft qui l'a dit.
En fait, c'est soit tu dis abonnement parce que tu vas payer, parce qu'il te propose de payer $60 pour 3 ans. Donc tu t'abonnes d'une certaine façon.
Non, ou alors c'est tu pas fais un abonnement.
Ou alors tu fais une microtransaction de $60 pour une microtransaction qui va te durer
c'est
3
un
ans.
Achat, c'est un achat temporaire pour un truc temporaire, c'est pas un abonnement.
C'est un achat avec engagement sur une durée limitée.
Sur une durée limitée, voilà.
Attends, je vais retrouver abonnement dans dictionnaire, non. On va voir.
Non, oui, mais il faut regarder le dictionnaire d'Ubisoft.
Voilà, c'est... il joue sur les mots, bien sûr.
Est-ce que l'abonnement fait peur aux gens maintenant? Est-ce que World of Warcraft a dégoûté les gens du jeu vidéo?
Ah, on est en train d'inventer des nouveaux modèles économiques dans le jeu vidéo, c'est pratique. Alors, tu vois, je devais comment tout à l'heure, je me suis aperçu qu'ils m'offraient un jeu gratuit que j'avais déjà et j'étais en colère. Alors, c'est con, le jeu, ça m'a rien coûté. C'est tout, mais c'est comme ça. On prend l'habitude d'avoir tout gratuit, tout facilement, etc. Et... mais non, c'est fini.
Je t'avouerai que le modèle free-to-play fonctionne extrêmement bien au niveau finance pour les éditeurs. Le porter sur le milieu informatique.
Ouais. Je suis en train de vérifier, ouais. Mais il y aura bien l'éditeur de donc tu auras les circuits de base, mais tu pourras aussi créer tes propres circuits, j'espère.
Si tu as acheté la chose qui n'est pas un abonnement, mais qui y ressemble fortement, c'est ça?
Si tu prends la version l'accès standard, tu auras plus d'accès à plus de créations, plus de sélection d'éditeurs de pistes, de circuits, de décors et compagnie, et tu auras accès à plus de compétitions, parce que c'est aussi un jeu compétitif, faut pas l'oublier. Et quand tu en prends l'accès club, alors là c'est la totale, donc effectivement c'est soit $30 par an, soit $60 sur 3 ans, là tu auras accès à la Trackmania Ground League. Voilà, c'est peut-être je vais peut-être pas m'engager là-dedans.
Pour la version gratuite, tu as une démo de l'éditeur. Donc tu pourras faire quelques maps, mais peut-être pas complètes ou avec tous les éléments. Mais tu pourras quand même jouer avec les maps construites par les autres joueurs.
J'ai quand même une petite peur, parce que Trackmania restait quand même un jeu d'arcade avec des graphismes.
Absolument.
Bon, voilà, qui n'étaient pas non plus les derniers
sortir. Est-ce que franchement, tu prenais le temps de t'arrêter pour regarder le décor?
C'est ça. Est-ce que... voilà. On a vraiment besoin d'une nouvelle version de Trackmania? Est-ce que juste réinstaller l'ancien ne serait pas suffisant?
Normalement, oui. Surtout que les anciens, en plus, ils sont gratuits. Enfin, ils les ont offerts gratuitement à force.
Après, les Trackmania, ils ont été utilisés dans les derniers événements, les gros événements, ne serait-ce que dans le The Event dont on a parlé lors d'une des dernières émissions. Ils avaient une coupe Trackmania à l'intérieur. Donc ils ont quand même une visibilité, et s'ils ne veulent pas par exemple se faire jarter de ce genre d'événement par des jeux un peu plus arcade, un peu plus récents, peut-être que aussi se remettre au goût du jour leur permet de continuer.
J'allais proposer un Trackmania VR, mais en fait non, très mauvaise idée.
Non, tu vas très vite,
c'est ce que j'allais dire, tu finis ta course, tu vomis, surtout dans certains Trackmania où tu fais des loopings et tout.
Le jeu est livré avec un seau.
Apparemment, le jeu serait déjà en précommande sur l'Epic Games Store, mais c'est à partir du 1er juillet qu'il sera vraiment disponible, que les serveurs vont tourner, qu'on pourra jouer. Voilà,
ça arrive très prochainement. Un petit peu de musique avant d'enchaîner sur des news insolites. Cette fois-ci, on va parler d'un jeu qui est malheureusement extrêmement connu. Et c'est dans Fortnite. Et oui, vous le savez, ce survival game qu'on connaît tous, où... si vous ne le connaissez pas, demandez à votre enfant, il le connaît sûrement. Ou il est déjà en train d'y jouer. Et on a eu également, alors cette fois-ci, on sort des petits concerts où on modélise un peu les gens et on les fait jouer sur une scène. Et ici, c'est Travis Scott qui va faire un concert. Alors cette fois-ci, là, il faut vraiment aller voir les vidéos de gameplay Fortnite, puisque... Travis Scott apparaît comme un géant dans le jeu et il fait des chorégraphies et il vous balade ensuite dans des univers un peu parallèles. C'est assez impressionnant à voir, hein, même si entre nous je ne connaissais pas Travis Scott et j'ai jamais joué à Fortnite. J'avoue que voilà, il y avait quand même un gros effort de fait et qui devait être très appréciable pour les joueurs, je pense.
Surtout qu'en plus, effectivement, avec la période de confinement, ça peut être un moyen de détourner. Alors, j'imagine que c'était préparé à l'avance. Bon, c'est presque bien tombé, mais effectivement, faire des concerts virtuels comme ça, presque interactifs, tu peux aller assister via ta console ou ton ordinateur à un concert presque en live, quoi. C'est pas mal comme concept.
Alors, j'en profite, puisque c'est vrai que la SACEM, là, en ce moment, elle a décidé de verser aux artistes qui ont joué en live sur Internet. Mais du coup, Travis Scott, qui avait ça dans un jeu vidéo, est-ce que lui a droit à cette
rémunération? Je pense que là, ça s'est pas encore prêt, là. C'est un niveau trop élevé pour eux.
Allez, c'est Travis Scott. Right from the house, took it straight from outside, straight to the couch. We put the mic outside, edit shit out. You letting the scouts outside, we running the scouts. Ain't no control in the game, they never leave. I got tats over my veins, cause that what I bleed. She drink a lot of the bourbon, like she from the street. We got control of the flows in her. We heard it your way went dry. We flood in the drought. Heard it your hood outside. We added some routes. We having the goods outside. Move it in and out. You letting the scouts outside. We running the scouts. The cops outside. Lock up the house. We keep the team on high. Some gold in their mouth. That Porsche outside. With at the top, yeah. She one of my most outside, yeah. Bringing the shots, yeah. Tell these phony, beat it. With that Photoshop, I'm body Adobe helmet. She in there making panini. She know I got all the bread, she know me. Got it. I'm a hustle, I've been busy. It's been a minute since I'm looking to know it. Howdy, Cleveland boy, he making pay. Yes, like Cleveland boy, he dominated me. Hey, headed for somewhere to go. Anywhere, send them on these. Don't know where to go. Gotta keep giving them heat. Time we go double though, time they add up the mad. And I've been dealing with so many things, having so many dreams. Let's go! On n'a pas l'habitude de passer ça dans Heureusement en France, mais voilà, c'était dans un jeu vidéo. Je vous propose de terminer avec quelques petites news. Alors, ça pourrait être dans l'agenda qui est passé la semaine dernière. On n'a pas parlé d'Elon Musk en plus durant cette émission. Je pense que tout le monde est au courant. SpaceX a réussi à envoyer des humains sur l'ISS. Donc, c'est le premier challenge vraiment remporté. Et je vous invite, si vous êtes devant un ordinateur, à regarder la différence entre la capsule qui vient d'être envoyée, donc qui s'appelle la Crew Dragon, avec celle qui est utilisée actuellement pour lancer les astronautes russes de la NASA et qui a été utilisée pendant plusieurs années, qui est le Soyuz. Il y a une différence dramatique entre les deux capsules. Lorsqu'on regarde le Soyuz, donc la capsule des Russes, on est sur des vieux boutons, les gens sont serrés à l'intérieur, alors que de l'autre côté, dans le Crew Dragon, on a carrément des écrans tactiles, c'est le jour et la nuit. Je pense qu'on est à un tournant de la conquête spatiale actuellement, on vient de faire un pas de géant grâce à SpaceX. Je sais pas quel est votre avis là-dessus.
Pourquoi est-ce qu'on envoie encore des humains là-bas? C'est trop risqué. Ils peuvent très bien rester ici et puis avec des combinaisons VR piloter la console là. Tu vois le truc, la console, la navette à distance.
C'est vrai. Pourquoi pas? Faudrait peut-être que tu en parles Elon Musk. Hein. Au pire,
après,
lui te proposera de transférer ta conscience dans un ordinateur.
C'est chaque voyage étant coûtant assez cher, il est blindé de recherches, de tests et compagnie à faire par l'astronaute qui monte dans la station pendant X mois. Ce qui fait que tu peux pas mettre par exemple juste une IA qui va déplacer la fusée, la capsule d'un point A à un point B. il faut aussi que il y ait des personnes qui fassent les tests, les examens, qui puissent faire les comptes rendus, envoyer les résultats. Ça, c'est pas encore faisable par une IA ou par simplement un petit levier de Manicrack de fête foraine, tu vois.
Et ce qu'arrive à faire SpaceX, qui n'a été fait par aucune des autres agences spatiales, c'est quand même de récupérer les boosters qui sont envoyés, qui coûtent une fortune, de les récupérer sur Terre. Alors si vous avez remarqué, ils n'ont pas envoyé un booster recyclé pour la mission habitée, mais voilà, pour lancer par exemple des satellites, ça peut être extrêmement utile. Et vu qu'on parle de satellites, on en avait parlé, hein, c'est Starlink qui vont proposer une connexion Internet partout dans le monde. Ce sont en fait une lignée de satellites qui vont tourner autour de la Terre, sauf que ça a créé plusieurs polémiques, notamment au niveau des astronomes qui se plaignent de ne plus voir.
Il y a tellement de satellites dans l'espace que ça bouche la vue.
De un, c'est vrai, mais en plus, ça abîme leur équipement. C'est très embêtant pour eux. Et même vous, hein, peut-être qu'un jour vous allez voir cette traînée de Starlink et vous allez penser à une sorte de pollution visuelle de l'espace.
Il va y avoir tellement de lumière reflétée que tu pourras même bronzer en pleine nuit avec des satellites spécifiques.
Bientôt, merci Elon Musk.
T'es en forêt, t'as pas de boussole, t'es dans le cul, autour du cul du monde, t'as forcément pas de réseau, tu peux pas regarder ta carte, comment tu fais pour te repérer? Tu regardes les étoiles, la grande ours, tout ça, pour savoir où tu dois aller, dans quelle direction. Mais si t'as une ribambelle de satellites qui cache la vue, comment tu fais?
Bah tu les suis, au moins t'auras internet, écoute. Et dans cette nouvelle flotte, Elon Musk effectivement souhaite corriger ce problème, a décidé d'équiper au niveau de ces satellites Starlink, quelque chose qui va plus ou moins absorber la lumière, ou en tout cas ne pas la réfléchir vers la Terre. Donc c'est une sorte de visière qu'il va poser comme ça aux satellites pour renvoyer les rayons du soleil. Et alors forcément ça ne sera pas disponible sur les satellites qui ont déjà été envoyés, mais on peut s'attendre à avoir une nouvelle lignée de satellites qui nous perturbe un peu moins.
Mais après, comment il peut faire? Parce que si t'as une réflexion sur un objet métallique, quelle qu'elle soit, t'auras quand même un changement de luminosité, t'auras un scintillement, tu vois ce que je veux dire?
Après, ça ne dit pas, est-ce que, à force d'envoyer des satellites autour de la Terre, est-ce qu'on arrivera à sortir avec des vaisseaux au bout d'un moment? Est-ce que ça risque de pas poser un petit problème? Une petite dernière musique avant de se quitter?
Alors c'est encore un concert qui a eu lieu dans un jeu vidéo, mais là on remonte un peu plus vieux, c'était dans le jeu Sacred 2, qui s'est sorti en 2008, que moi j'avais adoré, le 1 on y avait joué ensemble, moi j'avais adoré, le 2 j'avais craqué complètement, et à un moment, il y a une quête dans ce jeu, c'est un jeu de rôle, un RPG, tu rencontres un fan d'un groupe de musique, tu sais pas pourquoi, et il te donne un micro. Puis tu rencontres un autre mec qui te donne une guitare. Et en fait, il y a 4 PNJ comme ça que tu vas rencontrer en faisant ta quête, en discutant. Il y en a qui va donc te donner une guitare, il y en a qui va te donner des baguettes. Et au final, quand tu as tous ces instruments, tu vas à un endroit et tu tombes sur un groupe de musique qui s'appelle Blind Guardian. Tu leur donnes des instruments et boum, en plein milieu du jeu comme ça, ils font un concert. Et tu assistes au concert dans le jeu vidéo, etc. Et c'était mythique, quoi. Tous les gens qui avaient joué au jeu vidéo avaient adoré ce moment-là. Et ensuite, quand le concert était fini, tu reparlais au chanteur et il te donnait, tu pouvais garder la guitare. T'avais la guitare qui te servait, en fait, d'arme, d'épée ou de hache, je sais plus trop. Et tu t'en servais comme d'arme pendant tout le reste du jeu. C'était absolument génial. Donc, le groupe s'appelait Blind Guardian. C'était un groupe allemand, si je pas de bêtises. C'est un groupe de metal. Et le morceau qu'ils jouaient dans le concert, ça s'appelait Sacred Worlds, tout simplement.
Voilà, on va s'écouter ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On laisse la place à l'écho des gnous. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao.
A plus.
A plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
This is for the people of Arcaria. Though the hour's dark and the suffering goes on, just keep in mind, this world is sacred.
We'll be right back.